Le journal Olivier Bénis. Bonjour Olivier.
Bonjour à toutes et à tous. C'est le premier gros rebondissement des élections régionales de juin prochain. Le retrait annoncé de la liste LREM en Provence-Alpes-Côte d'Azur au bénéfice de la liste LR menée par Renaud Muselier pour tenter de freiner la progression du RN dans la région. Une décision qui a suscité une vaste indignation chez les Républicains qui ont retiré l'investiture à leur candidat. On vous explique ce malaise à droite dans ce journal. La campagne de vaccination a passé une nouvelle étape hier avec la possibilité pour 4 millions de nouvelles personnes d'être vaccinées. Dans les centres de vaccination, justement, on voit affluer de plus en plus de gens qui tentent d'obtenir leur injection, même sans correspondre aux critères. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur la rentrée des collégiens et lycéens demain, avec toutes sortes de règles parfois difficiles à suivre. On en parlera avec notre invité Philippe Vincent du syndicat enseignant SNPDEN UNSA. Nous évoquerons également les 10 ans de la mort d'Oussama Ben Laden et le retrait des troupes américaines d'Afghanistan encore 10 ans plus tard. Un pari pour les États-Unis embourbés depuis 20 ans dans une guerre pour traquer un seul homme. Enfin cet après-midi, c'est une demi-finale d'importance pour les rugbymen de La Rochelle, leur première en Coupe d'Europe. Coup d'envoi prévu à 16h.
France Inter.
C'est un peu un concept saisonnier qu'on pensait un peu délaissé lors des dernières élections, le fameux front républicain pour faire barrage au front puis au Rassemblement national. Il fait un retour fracassant ce matin dans l'actualité avec l'annonce par Jean Castex lui-même d'une liste commune en région Provence-Alpes-Côte d'Azur entre La République en marche et les Républicains sous la houlette de Renaud Muselier, le leader local des seconds. Et justement, au Rassemblement national, un tel rapprochement est une aubaine en termes d'image. Écoutez le sénateur Stéphane.
Il n'y a plus rien qui sépare La République En Marche et DLR. La seule préoccupation de M. Muselier, c'est d'empêcher Thierry Mariani d'accéder démocratiquement à la tête de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je me mets à la place d'un électeur LR sincère. Eh bien, je me retrouve là à recevoir de la part de mon candidat une demande de voter pour une liste finalement macroniste. On me demande de voter pour celui que l'on a tant décrié depuis 4 ans. Et c'est complètement déstabilisant. C'est une trahison. Alors d'habitude, ça se passe entre les deux tours. Mais là, ça se passe dès le premier tour.
Et tout ça, c'est pile le genre de discours qu'on voulait éviter côté LR, où l'annonce de cette liste commune a provoqué l'indignation et une décision immédiate du patron Christian Jacob. Renaud Muselier ne pourra pas bénéficier de leur investiture, car au-delà de la région PACA, c'est une affaire qui bouscule le paysage politique et qui embarrasse la droite d'opposition en affichant une proximité possible entre certains de ses membres et la majorité. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
La décision a donc été quasi instantanée.
Oui, alerte au feu tôt ce matin chez les Républicains, coup de fil dans tous les sens et consensus rapide pour ne pas laisser de place au doute. À 11h, le communiqué sort. La peur de perdre des uns, ajoutée au cynisme des autres, n'a jamais fondé une ligne politique. Ainsi, Christian Jacob lâche son ami de 30 ans. Pas de double étiquette, LR en marche, soulagement du député Olivier Marleix.
On ne peut pas nous reprocher d'avoir tergiversé. Je crois que ça révèle qu'il n'y a aucune ambiguïté chez les Républicains. Notre projet est à l'opposé de la politique d'Emmanuel Macron. Ça fait 4 années que nous menons ce combat d'opposition à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de honte à perdre une élection. En revanche, il y a un vrai déshonneur à renoncer à ses convictions et à trahir ses électeurs.
Message limpide pour les candidats de droite qui, dans certaines régions, discutent encore en coulisses avec des élus de la majorité en difficulté. LR espère avoir stoppé l'hémorragie, mais l'épisode laissera des traces. En PACA d'abord, où le RN vient ce matin de gagner 10 points, estime le député LR Éric Pogé. Avec En Marche, Renaud Muselier ne gagnera pas, prédit à l'instant Xavier Bertrand. À l'échelle nationale, c'est une fracture de plus chez LR, la marque d'une grande fébrilité. La preuve aussi qu'Emmanuel Macron est bien en campagne, préoccupé par sa réélection.
Merci Maxence Lambrecq. Et si la primaire socialiste de 2017 était la dernière du genre? En tout cas, l'idée de faire désigner un éventuel candidat du PS à la présidentielle par les militants eux-mêmes a du plomb dans l'aile. Dernière en date, Anne Hidalgo, qui se dit pas favorable à cet exercice pour la présidentielle de 2022. La maire de Paris, qu'on interroge régulièrement sur le sujet, annonce aussi dans une interview au JDD qu'elle prendra une décision sur une éventuelle candidature à l'automne prochain. 54 personnes placé en garde à vue lors des manifestations du 1er mai hier à Paris, chiffre confirmé ce matin par le parquet de Paris. Parmi eux, 4 mineurs, des suspects arrêtés après des heures en marge de la manifestation. Au total, 6 policiers ont été blessés pendant cette journée partout en France, dont 3 à Paris. La CGT dit de son côté avoir compté 21 blessés dans ses rangs après des affrontements entre leurs services d'ordre et d'autres manifestants. On parle souvent de ceux qui refusent de se faire vacciner, mais ils sont nettement moins nombreux en France que ceux qui rêvent de la fameuse piqûre et de la protection individuelle et collective qu'elle assure. La campagne de vaccination s'est encore élargie hier aux plus de 50 ans sans autre condition et aux plus de 18 ans présentant des facteurs de risque, obésité, diabète, hypertension, problèmes cardiaques. Dans la pratique, les centres de vaccination voient même arriver de plus en plus souvent des impatients qui tentent et parfois réussissent à se faire vacciner sans correspondre aux critères. Illustration à Marseille au stade Vélodrome avec Quentin Pérez de Tudela.
Imperméable et parapluie pour braver l'averse. Margot, jeune avocate de 29 ans, y va au culot. Elle se présente devant le stade alors qu'elle ne correspond pas aux critères de vaccination.
Non, aucun.
N'empêche, elle est bien décidée à repartir vacciner.
Moi, la semaine dernière, je suis allée dans un autre centre de vaccination. Ils m'ont dit, on vient d'en balancer une dizaine là, de doses. Si vous étiez venu un quart d'heure avant, on vous vaccinait. Donc c'est dommage en fait.
C'est ce que s'est dit aussi Stéphanie, la quarantaine. Elle veut avoir sa piqûre avant que tout le monde puisse la faire parce qu'elle doit préparer de belles vacances d'été.
C'est prévu de partir à New York. Donc pour y aller, il faut que je prévoie bien à l'avance du 15 juin mes vaccinations. Je mets, quoi qu'il en coûte, tout de mon côté pour pouvoir partir.
Elle fait donc la queue dans la file des 100 rendez-vous. Alice, étudiante, elle, a fait les choses en règle. Créneau réservé sur Doctolib.
Il y avait encore une dizaine de créneaux de libre. Donc non, si je prends la place de personne, je considère que je peux y aller.
D'ailleurs, elle n'est pas refoulée à l'entrée.
Vous avez rendez-vous ? Vous patientez.
Une demi-heure plus tard, après contrôle des paperasses, qui revoilà Margot avec une dose de Pfizer dans le bras et rassurée.
Ouais, je sais, on a bien fait de venir, vous voyez. Je suis vraiment un super service.
Elle reviendra donc le 12 juin pour sa deuxième injection.
Et pour rappel, l'ouverture de la vaccination à tous les adultes sans critères d'âge ou de santé, ce sera le 15 juin prochain. En attendant, pour rappel toujours, demain marque la fin de la restriction des déplacements au-delà de 10 km de votre domicile. Autre étape importante du calendrier de déconfinement, la rentrée scolaire. Après les écoliers lundi dernier, c'est au tour des collégiens et lycéens de retrouver le chemin des collèges et des lycées. Encore une rentrée un peu étrange, pleine de règles sanitaires anciennes et nouvelles à respecter. C'est bien simple pour les parents, les élèves et les professeurs. Il a sans doute fallu relire 3 ou 4 fois les annonces d'Emmanuel Macron pour être sûr de bien comprendre comment vont se dérouler les cours et même de savoir s'il faut ou non y envoyer son enfant puisque cela varie selon les classes. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Philippe Vincent. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du syndicat enseignant SNPDEN UNSA. D'abord, comment les enseignants, comment les directeurs d'établissement abordent-ils cette rentrée ? Dans quel état d'esprit sont-ils ?
Bon, je dirais avec une capacité d'adaptation forte, parce que je crois que c'est la 8e ou 9e forme de rentrée différente que nous faisons depuis un an. Donc je dirais que malheureusement, nous avons pris l'habitude de nous adapter et que cette rentrée, avec des formes encore différentes et des contenus encore différents, va malheureusement nous amener à nous adapter une fois de plus.
Mais la capacité d'adaptation et puis l'énergie aussi, ça commence pas un petit peu à manquer justement ?
Si, je dirais que au fond du réservoir des personnels de direction manque un peu d'essence parce que les collègues sont un peu usés, un peu à bout. On leur a beaucoup demandé, ils ont dû beaucoup faire et au bout d'un moment, je dirais qu'il y a une forme d'usure quand ce n'est pas de lassitude qui s'est installée, c'est une évidence.
Alors on va voir avec vous un peu point par point comment ça va s'organiser. La première nouveauté, ce sont les cours au lycée qui vont se faire en demi-jauge, comme ceux de certaines classes de 4e et 3e au collège. Comment on organise des classes en demi-jauge concrètement ?
Ça dépend beaucoup des configurations locales parce que si je prends par exemple l'exemple d'un collège qui va avoir à s'adapter, il est évident qu'un collège en milieu rural dont les élèves viennent par le transport scolaire à 8h et repartent à 17h ne va pas forcément faire le même choix qu'un collège urbain dont les élèves viennent éventuellement à pied ou par les transports en commun de quelques rues à côté. Donc il est évident que l'un fera des choix plutôt en organisation de journée, tandis que l'autre a peut-être amené plutôt à faire des choix en organisation de demi-journée. Donc je dirais que le milieu et la configuration locale vont sans doute beaucoup jouer sur les types d'organisation choisies.
Et vous avez suffisamment de marge de manœuvre justement pour adapter au cas par cas ?
Oui, globalement, de ce point de vue-là, les autorités académiques ne nous ont pas donné un cadre trop rigide. Et par ailleurs, la rédaction de la circulaire des GESCO, qui est parue en fin de semaine, offre un espace relativement large pour qu'on puisse choisir une organisation ou une autre en fonction des situations locales.
Sur cette demi-jauge, est-ce que c'est vraiment mieux comme système pour les élèves, notamment, que de faire cours intégralement en présentiel ou même intégralement en distanciel ?
Bah non, je pense pas qu'on puisse considérer que ce soit mieux. On voit bien que c'est une forme adaptée, si ce n'est dégradée des modalités d'enseignement, et que le choix qui est fait là est d'abord un choix sanitaire pour éviter trop de brassage, trop d'élèves, trop de mélanges, et que de toute façon, ça ne peut pas être à l'évidence, à l'égal de ce que seraient des séquences pleines et entières avec un fonctionnement habituel.
Alors le protocole prévoit aussi la fermeture de toute classe qui compte au moins un cas de Covid. Est-ce que ça suffit à se rassurer sur le risque sanitaire pour les enseignants et pour les élèves ?
Je dirais qu'on voit bien que c'est une des mesures les plus dures qu'on nous demande d'appliquer. D'ailleurs, avant le 2 avril, c'est celle qui a été appliquée dans un certain nombre de zones en tension. Et on a bien vu que ça faisait immédiatement un résultat très important avec des fermetures de classes multipliées par 3, par 5, par 6, par 8. Donc on voit bien que c'est d'abord un choix sanitaire avec une volonté, au premier cas confirmé apparent, d'essayer de couper la chaîne de contamination le plus vite possible.
Alors justement, pour détecter ces cas, on a une autre nouveauté à cette rentrée, encore une, les autotests pour les élèves et pour les professeurs. Déjà, concrètement, est-ce que vous commencez à les recevoir ? Ils étaient censés être gratuits pour les professeurs et les élèves. Est-ce qu'ils sont bien là, ces autotests ?
Non, ils ne sont pas là. Ils arrivent au compte-gouttes. Ils sont arrivés pour certains en petite quantité. Et je dirais que les gros wagons, si on comprend bien les informations qui nous sont données, sont encore en Chine, semble-t-il, à cette heure.
D'accord. Et vous les attendez à peu près à quel moment ? Vous avez une idée ?
On les attend, semble-t-il, dans le courant de la semaine pour les personnels et sans doute dans le courant de la semaine prochaine pour les élèves. Ce qui veut dire aussi que, je dirais que l'actualité des autotests n'est sans doute pas pour demain matin.
D'accord. Ces autotests, après, il faudra s'organiser pour les utiliser. Il y aura des complications peut-être en termes d'organisation. Comment on gère ce dépistage en plus de l'organisation des cours, en plus de l'organisation des classes, en plus de tout ça ?
Pour tout vous dire, actuellement, les collègues ne savent pas faire et ne voient pas bien comment ils pourront faire. Alors, il y a d'ailleurs un questionnement sur le choix qui est fait. Pourquoi tester un élève éventuellement positif au lycée une fois qu'il aura contaminé ses camarades, alors qu'il serait, semble-t-il, plus logique de le tester ou de l'auto-tester chez lui, et s'il est positif, qu'il évite de venir au lycée contaminer ses camarades. Donc là, il y a une réflexion d'ensemble sur le choix qui est fait. Et puis après, bon, il faut être clair, les lycées, et en ne parlant qu'eux, ne sont pas des dispensaires ni des centres de soins. Ce n'est pas leur destination première. Et en plus, l'ensemble des obligations et le cahier des charges qui nous est donné nous paraît assez irréaliste au regard de nos capacités à faire, tant en termes de personnel que de configuration que de logistique. Donc ça inquiète beaucoup les collègues et beaucoup se disent que vraisemblablement, ils ne seront pas en état de mettre en œuvre ce dispositif, en tout cas tel qu'il est prévu pour le moment.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Philippe Vincent. On rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat enseignant SNPDEN-UNSA et donc que la rentrée dans les lycées et les collèges, c'est demain pour tous les étudiants et les élèves que cela concerne. Ce sont des images étonnantes, voire agaçantes dans ce contexte de restrictions sanitaires. Plusieurs petites rave parties étaient organisées ce week-end dans plusieurs endroits de France. 500 personnes dans les Côtes d'Armor hier, par exemple. Une centaine dans le parc de Bercy à Paris la nuit dernière. 500 personnes également près de Dijon, dispersées ce matin. À chaque fois, une interruption de la fête par les gendarmes, des saisies de matériel et plusieurs dizaines de verbalisations. Écoutez le préfet de Côte d'Or, Fabien Sudry.
Le responsable organisateur pressenti a été interpellé. Il est mis en cause par le parquet pour mise en danger de la vie d'autrui. Et il y a eu, dans la nuit, et encore ce matin, tout est maintenant terminé. Ce matin, vers 8h, il n'y avait quasiment plus personne. Il y a eu de nombreuses verbalisations dans le cadre de la crise sanitaire, de l'urgence sanitaire. 207 verbalisations ont été effectuées par des forces de gendarmerie. Donc l'intervention de la force publique, elle était extrêmement massive et rapide. Elle a permis finalement d'enrayer cet événement que je condamne d'ailleurs totalement, qui relève de l'irresponsabilité la plus totale.
Le préfet de Côte d'Or, Fabien Sudry, propos recueillis par Thomas Nougaillon de France Bleu Bourgogne. C'est une date historique dans l'histoire récente américaine, le jour où est mort Oussama Ben Laden. C'était il y a 10 ans précisément, dans un quartier résidentiel d'Abbottabad, au Pakistan. Un commando américain abattait le fondateur d'Al-Qaïda, cerveau des attentats du 11 septembre 2001, qui ont bouleversé les États-Unis mais aussi le monde. Cela faisait 10 ans que les Américains traquaient Ben Laden en Afghanistan, un pays qu'ils sont officiellement en train de quitter, 20 ans donc après le début d'une guerre interminable sur place. Alors, mission accomplie ou pari risqué, eh bien, c'est difficile à dire, Claude Guibal.
Ben Laden est mort, Al-Qaïda très affaibli en Irak et en Afghanistan. Il est temps de mettre fin à la guerre pour toujours. En annonçant le 14 avril le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, 10 ans quasiment jour pour jour après la mort d'Oussama Ben Laden, Joe Biden envoie un message. Al-Qaïda n'est plus vraiment une menace. Pour les États-Unis, tout tient en un pari. Les Américains se sont lancés dans la guerre la plus longue de leur histoire pour défaire leur ennemi Al-Qaïda. Pour sortir de ce bourbier, il leur fallait l'assurance que le groupe terroriste, hier le plus puissant du monde, était effectivement à terre. D'où ce pacte faustien conclu avec les talibans. Car c'est là la porte de sortie des troupes américaines. Cet engagement des talibans a coupé tout lien avec Al-Qaïda en échange du départ des Américains. Mais les combattants d'Al-Qaïda, eux, voient ce retrait comme leur victoire. Et ils l'affirment, dès le dernier GI parti, leur partenariat avec les talibans reprendra. Des talibans qui sont désormais aux portes du pouvoir en Afghanistan.
Les précisions de Claude Guibal. Et puis notez que sur notre site franceinter.fr, vous pouvez retrouver une interview passionnante de l'ancien patron de la CIA, John Brennan, qui raconte justement la nuit où l'on a tué Ben Laden. Journée de deuil national en Israël ce dimanche. Les drapeaux sont en berne dans tout le pays suite à la mort de 45 personnes, dont plusieurs enfants, dans un vaste mouvement de foule pendant un pèlerinage réunissant des dizaines de milliers de juifs orthodoxes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou estime qu'il s'agit de l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire de l'État hébreu depuis sa création en 1948. Il y a ceux qui viennent de partir dans l'espace et puis il y a ceux qui en reviennent. Une semaine après l'arrivée du spationaute Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale, 4 autres astronautes sont rentrés sur Terre ce dimanche matin. Après 160 jours passés en orbite, leur capsule a améri en pleine nuit dans le golfe du Mexique après un vol de 6h30. Oui, ça va plus vite en descendant qu'en montant. L'équipage composé de 3 Américains et 1 Japonais est en bonne santé. Selon la NASA, 7 astronautes sont encore à bord actuellement de la Station Spatiale Internationale. Tiens, et puis si on s'offrait une finale franco-française en Coupe d'Europe de rugby, tout va se jouer cet après-midi à partir de 16h lors de la demi-finale entre La Rochelle et Leinster. Pour les deux clubs, l'enjeu c'est de rejoindre en finale le Stade Toulousain, qualifié hier après sa victoire contre l'Union Bordeaux-Bègle. Bonjour Vincent Pellegrini.
Bonjour Olivier.
Vous êtes en direct donc de La Rochelle et pour les Rochelais, c'est aussi l'occasion d'arriver en finale pour la première fois de leur histoire.
Oui, c'est effectivement une étape de plus pour ce Stade Rochelais qui évoluait encore en deuxième division il y a 7 ans. Depuis sa remontée en top 14, il est monté en puissance, 2 demi-finales du championnat de France et cette présence aujourd'hui dans le dernier carré de cette Coupe d'Europe qui vient concrétiser une saison pour le moment très réussie. Les Rochelais sont deuxièmes du top 14 et ils ont brillé lors de leur parcours européen. Ils abordent donc cette demi-finale sur une très belle dynamique et s'ils sont novices à ce niveau, ils sont loin d'être inexpérimentés dans leur rang. On retrouve notamment des internationaux confirmés comme Brice Dulin, Grégory Aldrit, Winnie Antonio et d'anciens All Blacks comme Victor Vito ou Kier Barlow. Face à cette équipe rochelaise séduisante se dresse un géant du rugby européen, le Leinster, 4 trophées à son palmarès comme le Stade Toulousain et un effectif qui regorge d'internationaux irlandais. Si les Rochelais parviennent à faire chuter le Leinster, on pourra parler d'exploit. Ce sera en tout cas la plus belle victoire de l'histoire de ce club.
Eh bien, on va croiser les doigts, Vincent Pellegrini. Merci beaucoup. Et puis on fera évidemment le point sur cette rencontre dans nos éditions de l'après-midi, mais aussi dans le journal des sports à partir de 19h15, toujours sur France Inter. Ce sont des actes de délinquance très ciblés, mais qui inquiètent de plus en plus celles et ceux qui les subissent. Le vol de ruches. Ne riez pas, c'est très sérieux. Le mois dernier, dans l'Orne, par exemple, un groupe d'apiculteurs bénévoles a vu disparaître 14 de ces ruches. Et c'est loin d'être la première fois, et ils sont loin d'être les seuls. Dans le milieu, on observe une multiplication de ces vols un peu partout en France, notamment dans la Sarthe ou la Bretagne. Dans l'Orne, les apiculteurs du coin ne cachent pas leur colère. Le reportage de Marc Bertrand.
Dans l'herbe au fond du champ, on ne voit plus que les parpaings sur lesquels étaient posés les ruchers. Tout a disparu. Valérie, une apicultrice bénévole, a son air des mauvais jours.
Ah, moralement, oui, on en a pris un sacré coup sur la calebasse. Franchement. Mais c'est qui fait ça?
Ce sont des apiculteurs.
Ça, Gilbert, un autre apiculteur, en est persuadé. Une ruche, ça pèse jusqu'à 60 kilos. Il faut s'y connaître pour la déplacer. Venir de nuit quand les abeilles dorment, c'est l'affaire de professionnels.
Comme il y a de plus en plus de maladies qui affectent les abeilles, les pollutions, donc il y a de la mortalité beaucoup plus qu'avant. Donc les professionnels, ils ont beaucoup de pertes. Donc ils essayent d'aller piquer les ruches du voisin, quoi.
Une ruche avec un bel essaim, ça peut se revendre entre 200 et 600 euros. Et les vols se multiplient depuis quelques années.
C'est terrible, hein, parce qu'en plus, ils revendent ça sous la Manche. Quand on voit que dans la Sarthe, là, ils s'en sont fait piquer 35, mais c'est... Moi, je trouve ça incroyable, incroyable, dégueulasse, quoi. C'est vraiment... Ça nous atteint beaucoup.
Valérie, chez elle, elle a 30 ruches.
Je les planque. Elles sont dans des endroits où on ne les voit pas. J'essaye d'être très, très discrète en arrivant sur mes ruchers. Je ne suis pas en tenue, avec des grillages dans tous les sens. C'est malheureux, hein, d'en arriver là.
L'association n'a pas beaucoup d'argent, mais elle a décidé de ne plus se laisser piller sans réagir. Elle va investir dans des caméras et des balises pour géolocaliser ses ruches.
Et voilà, c'est le genre d'information qui vous colle le bourdon. Allez, on passe à la météo.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et on jette un œil vers le ciel avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Un soleil plus durable qu'ailleurs aujourd'hui pour les régions littorales. Sur le reste du pays, le mélange de gris et de blanc matinal va souvent tourner à l'avantage des nuages cet après-midi sous forme de cumulus plus ou moins menaçants avec à la clé des averses et pour les Pyrénées de la neige à 1600 mètres d'altitude. Et puis à noter le vent d'ouest toujours très turbulent entre les côtes varoises et le Cap Corse, le tout dans les températures inférieures au normal de l'ordre de 12 à 15 degrés du nord de la Loire au nord-est et en Rhône-Alpes, 15 à 17 du Poitou-Charentes au centre, 17 à 19 de l'Aquitaine au golfe du Lion et 21 à 22 entre Nice et Bastia. La nuit prochaine, les valeurs vont fréquemment descendre entre 0 et 3 degrés sous abri sur les deux tiers nord du pays. L'après-midi, elles vont partout remonter un peu plus haut qu'aujourd'hui, avec un temps globalement ensoleillé, sauf en fin d'après-midi près de la Manche, annonçant l'arrivée en soirée par les côtes de la pluie et d'un vent d'ouest assez fort.
Merci Jean-Michel Golinski.